Et on retrouve le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Drapée de blanc, un foulard sur la tête, Sophie Pétronin est arrivée à Bamako cette nuit, libre après 4 ans de captivité. Elle était la dernière otage française dans le monde. Sa libération s'inscrit dans un échange plus vaste de prisonniers maliens, vous l'entendrez dans ce journal. Nous ferons le point ensuite sur les nouvelles restrictions sanitaires. Le rouge écarlate fait tache d'huile sur la carte de France et la réserve sanitaire semble à sec cet automne. Du glyphosate à petite dose, l'ANSES restreint l'utilisation de cet herbicide et prépare déjà le terrain pour une interdiction promise en 2023. Et puis que se passe-t-il au Japon pour que le Premier ministre soit bousculé par les universitaires et les chercheurs? Il l'accuse de violer le principe de la liberté académique. Nous irons à Tokyo dans cette édition. Enfin, dans un gros quart d'heure, Frédéric Seyss, dans son billet, vous expliquera en quoi la santé est un attribut très politique. C'est un succès sans pareil pour les nouvelles autorités maliennes. 4 otages détenus dans le pays par des djihadistes ont été libérés. L'annonce a été faite cette nuit. Elle est confirmée par l'Élysée car parmi ces otages se trouve la Française Sophie Pétronin, aux mains depuis presque 4 ans de forces armées maliennes. À la tête d'une petite ONG venant en aide aux enfants, elle avait été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour.
Cette libération a finalement été annoncée après une semaine, Bertrand, d'incertitude.
Oui, une libération entourée de zones d'ombre après plusieurs jours de rumeurs, tandis que les autorités maliennes et françaises gardaient prudemment le silence. Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé ont été libérées dans la région de Tessalite, dans l'extrême nord du Mali, à proximité immédiate de la frontière algérienne. Les ultimes négociations avec les terroristes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, filiale d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, se sont éternisées en début de semaine. Au total, près de 200 djihadistes ont été échangés contre la libération de la Française, du Malien et de 2 Italiens qui avaient disparu, l'un au Niger en 2018, l'autre au Mali en 2019. Un marchandage complexe dont on ignore les modalités exactes. Officiellement, personne n'évoque le paiement d'une rançon. Seul certificat l'arrivée au pouvoir de la junte à Bamako après le coup d'État du mois d'août a remis à plat le dossier des otages. Ces libérations interviennent quelques jours après l'installation d'un gouvernement de transition dans lequel les militaires maliens détiennent des postes clés. Dans cette affaire, la France, depuis près de 4 ans, a gardé un mutisme quasi total, au point que la famille de Sophie Pétronin reprochait régulièrement au Quai d'Orsay et à l'Élysée une forme d'inaction.
Des jours de négociations donc cette semaine, Bertrand, pour voir in fine ces images au milieu de la nuit tout à l'heure. Sophie Pétronin qui descend d'un avion à Bamako. Bertrand, je vous propose d'aller sur le tarmac un instant où notre correspondant Kaourou Magassa nous raconte l'arrivée de Sophie Pétronin.
Cette femme de 75 ans le répète inlassablement. C'est sa foi et le souvenir de ses proches qui l'ont fait tenir.
Au fond de moi, j'ai toujours été sûre et certaine que je retournerai, que je ne mourrai pas entre les deux. Et je me suis dit, surtout n'accorde pas d'importance à la mort, parce que tu ne sais pas où, quand et comment elle arrivera. Alors, tu t'en fous. Vas-y, tiens bon, accroche-toi, fais ce qu'il a dit. C'est lui qui l'avait dit, dans une vidéo. Accroche-toi, tiens bon. Et ben, c'est ce que j'ai fait.
Lui, c'est Sébastien Chado Pétronin, son fils, debout à ses côtés, la main posée sur l'épaule de sa mère. Durant 4 ans, il s'est battu pour la retrouver, une trentaine de vols vers l'Afrique et beaucoup de sacrifices.
Si elle me demande pardon, j'ai envie de lui dire que c'est pas la peine de me demander pardon. que moi aussi, j'avais vraiment envie de lui dire pardon. Parce que j'ai fait de mon mieux.
Mais tu as fait ce que tu pouvais faire, que tu devais faire.
C'était pas assez.
Mais non.
Sophie et Sébastien rentreront ensemble en France. Un Falcon médicalisé affrété par Paris atterrira aux environs de midi à l'aéroport de Villacoublay.
Emmanuel Macron accueillera d'ailleurs Sophie Pétronin pour son retour tout à l'heure. Nous vous retrouvons Bertrand Galichet. Qu'est-ce que cette libération change pour la politique française au Mali?
Eh bien, la première conséquence, c'est la remise en liberté des prisonniers échangés contre les otages. Nombre de ces djihadistes avaient sans doute été capturés par les militaires français de l'opération Barkhane qui vont à nouveau se retrouver face à ses adversaires prêts à tout. Ce n'est donc pas une bonne nouvelle nouvelles sur le plan sécuritaire. Politiquement, cet échange prouve que les nouvelles autorités maliennes sont prêtes à négocier avec les groupes islamistes, ce qui induit un changement de paradigme. Alors, le nouveau pouvoir à Bamako est-il favorable à des concessions politiques avec les organisations sévissant dans le nord du pays? Si c'était le cas, la France, qui met en œuvre quasiment seule des moyens importants pour limiter l'expansionnisme islamiste au Mali, devrait revoir sa politique. La libération des otages, présentée par le gouvernement malien comme un succès politique, ne règle rien pour l'avenir du Mali.
Merci Bertrand Galichet de la rédaction internationale de France Culture. Quatre métropoles françaises basculent en zone d'alerte maximale pour faire face au Covid-19. Il s'agit de Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. L'annonce a été faite hier soir par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et dès demain donc, des mesures sanitaires seront renforcées dans toutes ces zones avec la fermeture des bars et un protocole plus strict dans les restaurants, Cécilia Arbonnat.
C'est une liste inquiétante qui s'allonge. Lille, Grenoble, Saint-Étienne et Lyon passent donc en rouge écarlate sur la carte de France. Un point d'interrogation plane sur Toulouse et Montpellier. Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Pour Toulouse et Montpellier, nous nous donnons quelques jours d'observation pour vérifier si la situation sanitaire se dégrade et si les indicateurs sont franchis. Une bascule en zone d'alerte maximale pourrait être opérée d'ici à lundi matin.
Deux nouvelles villes passent en alerte renforcée.
Dijon, que vous voyez apparaître, a maintenant un taux d'incidence chez les personnes âgées qui justifie son classement en zone d'alerte renforcée. De la même manière que Clermont-Ferrand, pour ces deux métropoles, ce passage se fera dès samedi matin.
Le discours se fait pédagogue. Olivier Véran regarde chaque Français dans les yeux.
Dans cette lutte que nous menons, cette lutte acharnée contre la diffusion du virus, nous détenons chacun de nous une part de la victoire.
La locution se termine par un message d'affection, presque tendre, envoyé aux soignants.
Nous tenons à vous, soignants. Nous vous remercions pour votre mobilisation de tous les instants. Et j'en profite pour appeler celles et ceux qui le peuvent également à rejoindre les renforts à travers la réserve sanitaire.
Problème, une partie des effectifs de cette réserve sanitaire est déjà sollicitée en Île-de-France.
Effectivement, il s'agit de médecins, de soignants ou de techniciens de laboratoire. Ils sont déjà sur le terrain, nous confirme Abdel Douga, urgentiste parisien.
Je suis aide-soignant de nuit à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je suis membre actif du collectif Interurgence. On est très sollicité sur l'hôpital du fait que les hôpitaux de Paris sont passés en plan blanc. Ça me semble compliqué de rejoindre la réserve sanitaire dans ces conditions, voire impossible. Alors bien entendu que la réserve sanitaire s'adresse à pas mal de soignants sur tout le territoire. En voyant ce qui se passe sur pas mal de villes qui viennent ou qui vont passer en plan d'urgence maximale, ça va être compliqué d'avoir du renfort de province notamment.
Des propos recueillis pour France Culture par Sarah Ders. J'ajoute à ces appels d'Olivier Véran les promesses du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il annonce lui l'extension du fonds de solidarité pour de nouveaux secteurs reliés aux activités de la culture, du tourisme, du sport. Cela concerne les entreprises jusqu'à 50 salariés au lieu de 20 initialement. C'est un début d'interdiction, tout doucement. L'utilisation du glyphosate sera restreinte l'année prochaine pour certains secteurs. La viticulture, l'arboriculture, les grands céréales et la forêt. À terme, l'herbicide sera totalement interdit en 2023. C'est une promesse du gouvernement. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
En attendant 2023, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, entend limiter les usages.
En fait, l'herbicide restera autorisé seulement lorsqu'il n'existe pas d'alternative non chimique possible, autorisée s'il n'y a pas d'alternative mécanique disponible sur le marché, d'alternatives à usage courant déjà expérimenté. Et il ne faut pas que l'usage de ces alternatives mette l'agriculteur en difficulté économique. C'est ce que l'ANSES a évalué pour déterminer au final des critères d'utilisation du glyphosate et des restrictions d'usage. Exemple, sur les grandes cultures, céréales, tournesol, colza, le glyphosate reste autorisé mais plafonné avec une réduction de 60% par rapport à la dose annuelle maximale autorisée chaque année par hectare. Autre exemple, dans les vignes, le glyphosate ne pourra être utilisé que sur 20% de la surface des vignobles. Les explications de Marie-Christine de Guénin de l'ANSES.
Par exemple, entre les rangs de vignes, il est possible d'avoir des alternatives, par exemple laisser de l'herbe, la tondre, ou travailler avec un outil mécanique, c'est aujourd'hui possible. Donc, entre des rangs de vignes, on considère que ce sont des zones où l'on peut se passer de glyphosate et on va l'interdire. Par contre, sous le rang, entre les ceps de vignes, il n'existe pas aujourd'hui de solution mécanique appropriée, parce que ces solutions, soit elles sont expérimentales sous forme de robots, donc pas d'usage courant et donc non accessible à l'ensemble des agriculteurs, ou alors il existe des outils, mais qui peuvent abîmer les ceps de vignes, les détériorer.
Même constat dans les vergers, l'usage du glyphosate sera encore possible sur 40% de la superficie des vergers français, strictement au pied des arbres. Ces nouveaux usages, les fabricants de produits phytosanitaires ont 6 mois pour les détailler et mettre à jour aussi les étiquettes sur les bidons de glyphosate.
Véronique Rebérotte, merci beaucoup. Nous en parlions ici même hier, l'allongement du délai légal pour recourir à l'avortement en France. L'Assemblée nationale s'est prononcée pour hier, pour passer de 12 à 14 semaines après des débats houleux dans l'hémicycle. Et les discussions ont d'ailleurs été si longues que les députés n'ont pas pu voter sur le bien-être animal hier. Le groupe écologiste Écologie, Démocratie et Solidarité demande la fin progressive des spectacles d'animaux sauvages dans les cirques ambulants notamment. Il faudra reprogrammer l'examen de ce texte. Et doit-on préserver le loup ? Là aussi, la question se pose depuis plusieurs décennies, surtout entre éleveurs pour préserver leurs bêtes. Olivier Vogel s'y est intéressé dans le cadre du grand reportage de la rédaction de ce vendredi, en regardant notamment ce qui se fait en Italie, dans le parc national des Abruzzes, entre Rome et l'Adriatique. Le loup y vit en harmonie avec les hommes et leurs animaux. Olivier Vogel s'y est rendu en compagnie d'un ingénieur agronome, d'un forestier et surtout du maire d'une commune alsacienne dans la vallée de la Bruche. Extrait.
On est ici pour chercher un peu d'informations. Alors c'est un sujet qui est hyper sensible, le retour du loup en France. Nous, alors dans la vallée de la Bruche, on est confronté et touché par le retour du loup depuis 1 an. Et le but, c'était de venir avec les éleveurs pour voir comment ici, dans les Abruzzes, ils ont fait, puisque le loup n'a jamais disparu ici. Donc ils ont toujours cohabité. Nous, en Alsace, le loup, il est de passage et il fait aussi des dégâts dans les troupeaux. Donc l'inquiétude des bergers, elle est légitime. Donc on vient ici, en fait, pour chercher des informations et surtout la vision qu'ils ont eue ici pour cohabiter avec le loup depuis toujours, puisqu'ici, il n'a jamais disparu. Alors après, tu vois, le débat du loup pour ou contre... Il est complètement dépassé. Le loup, il est là. On ne l'a pas réintroduit dans nos petits territoires. Il est de passage, donc il faut qu'on fasse avec.
Il faut apprendre à cohabiter avec lui, point, c'est tout, quoi.
Oui.
Ménager le loup et l'agneau, une cohabitation à l'italienne. Pour en entendre plus, rendez-vous à 17h sur France Culture. C'est un grand reportage d'Olivier Vogel réalisé grâce à Pascal Doumange et présenté par Aurélie Kiefer. 8h12 sur France Culture et nous partons maintenant au Japon, puisqu'à peine installé au pouvoir, le Premier ministre Yoshihide Suga y affronte une crise inattendue. Le chef du gouvernement est vivement critiqué par le monde universitaire et scientifique, qui l'accuse, et ce n'est pas rien, de violer la liberté académique. Les explications sur place de Karine Nishimura.
C'est le Premier ministre lui-même qui a mis le feu aux poudres. Il a retoqué la nomination de 6 universitaires au Conseil scientifique du Japon, une sorte d'académie des sciences. D'habitude, depuis 7 décennies, le Premier ministre se contente de valider les noms de personnalités reconnues dans leur domaine et officiellement recommandées par leur père pour rejoindre cette instance financée par les pouvoirs publics mais indépendante. C'est donc une nomination de pure forme. Mais cette fois, le Premier ministre Suga s'en est mêlé, jugeant que ces scientifiques avaient pour mission de travailler pour le pays et qu'il était donc légitime de sélectionner. Du coup, tout le monde le soupçonne d'avoir purement et simplement sanctionné des spécialistes du droit, de la politique, de la religion ou de l'histoire qui ne lui plaisent pas. Car ces 6 personnes écartées ont en commun d'avoir dans le passé pris position contre des lois et avis du gouvernement Abe, dont l'actuel Premier ministre était un pilier. L'onde de choc dépasse les seuls milieux universitaires, des journalistes, des écrivains, des réalisateurs de cinéma, des avocats, des constitutionnalistes, de nombreuses instances éducatives, scientifiques ou culturelles dénoncent une situation extrêmement grave, une menace pour la liberté d'expression et la liberté académique. Autoritaire et entêté, le Premier ministre Suga est réputé pour avoir fait le tri dans l'administration, mais en s'attaquant désormais au milieu académique, il franchit un niveau que beaucoup jugent inacceptable.
Karine Nishimura, notre correspondante à Tokyo. À quelques heures de la levée du secret sur le prix Nobel de la paix, nous nous penchons ce matin sur une statue en forme de chaise vide. Elle sera inaugurée aujourd'hui à Vincennes par le Théâtre du Soleil et l'association Solidarité Chine. C'est en fait un souvenir, un hommage au dissident chinois Liu Xiaobo. Lui a été prix Nobel de la paix en 2010, il y a 10 ans. Il est mort depuis dans les prisons chinoises en 2017 sans jamais avoir reçu son prix, Nathanaël Charbonnier.
Qui connaît Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix? Qui se souvient qu'il est mort en prison et qui se rappelle qu'il est le second Nobel à ne pas avoir reçu son prix depuis 1936? Trop peu de monde, explique Marie Holzmann de Solidarité Chine, d'autant que le régime communiste a tout fait pour effacer son nom.
Liu Xiaobo a été effacé de la terre. On ne lui a pas accordé de tombe. Ses cendres ont été réparties dans la mer 2 jours après sa mort. Les Chinois sont très vigilants, donc ils luttent contre la mémoire.
Et Marie Holzmann d'expliquer que les caractères chinois qui veulent dire « chaise vide » sont censurés en Chine, tout comme l'image du tableau « La chaise » de Van Gogh. Conséquence, c'est une grande chaise vide qui a été installée à la cartoucherie, le théâtre que dirige Ariane Mouchkine.
C'est la chaise vide de Liu Xiaobo. Elle inspire une émotion et une curiosité. Et je suis sûre qu'il y a une chose qui réjouirait Liu Xiaobo, c'est que les enfants grimpent dessus tout le temps. Pour eux, c'est une chaise géante. Et c'est vrai que c'était une sorte de géant intellectuel et de courage, cet homme.
Et cette grande chaise vide de Liu Xiaobo, qui sera inaugurée 10 ans jour pour jour après son Nobel, a été réalisée par l'artiste Wang Keping.
Nathanaël Charbonnier. Les averses progressent sur une large moitié nord du pays ce matin. Ailleurs comme hier, le soleil se fera une place. Ce matin, il fait 9 degrés à Brest, 11 à Lyon, 14 à Neuilly-Plaisance, 16 à Nice.